Bonjour, Gilad Shalit est libre. Il est rentré en Israël après 5 ans de détention à Gaza. Nous rejoindrons en direct à Jérusalem Serge Ronen. Une libération, le rappelle, sur fond d'échange. 1027 prisonniers palestiniens seront libérés après l'accord passé entre Israël et le Hamas. Un premier groupe retrouve la liberté en ce moment même. Moussine Enaimi sera en direct de Gaza, où les prisonniers commencent à arriver. Dramatique, c'est le mot lâché par l'Union syndicale suisse ce matin pour parler des conséquences de la force du franc. Pression sur les salaires, dumping salarial, exportation et nuitée en baisse, caisse des pensions qui devrait subir des pertes de près de 30 milliards de francs. Bref, l'USS tire la sonnette d'alarme, nous dira Christian Favre. Renzo Ambrosetti, co-président du syndicat Unia, est notre invité. Micheline Calmiret a rendu aujourd'hui un vibrant hommage aux jeunes militants arabes. Elle les a remerciés d'incarner l'espoir pour le changement. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal également, reportage de Catherine Illich à Londres, où un tourisme d'un nouveau genre a vu le jour. Il est possible de suivre les traces des SDF, et ce sont ces SDF eux-mêmes qui font office de guide. Objectif, combattre les préjugés, donner de l'espoir aussi aux personnes sans domicile fixe. Nous parlerons développement durable en fin d'édition. Le terme développement durable est né il y a 20 ans, lors du premier sommet de la Terre à Rio. Durban en fin d'année, Rio 20 ans après en 2012. Ces grands rassemblements sur le climat et l'environnement sont-ils condamnés à accoucher d'une souris? Nous poserons la question à Sylvie Motard du Bureau Régional pour l'Europe au sein du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Elle coordonne aujourd'hui à Genève le colloque Rio plus 20, action locale pour un impact global. 19 degrés, du soleil encore aujourd'hui. Dès ce soir, une perturbation touchera nos régions. Pluie la nuit prochaine, demain également, avec un net rafraîchissement ces prochains jours. Prévision de Sébastien Dupéret, c'est dans une demi-heure. C'est donc fait. Gilad Shalit, 25 ans, est désormais libre après 5 ans de détention. Une libération qui s'est faite en même temps que la remise en liberté d'un premier groupe de 477 détenus palestiniens sur les 1027 qui doivent retrouver la liberté. Le convoi des prisonniers palestiniens libérés est entré dans la bande de Gaza. C'était en fin de matinée. On a avec nous en direct Moussine Enaimi sur place.
Oui, là, ici au terminal de Rafah, c'est un moment de très grande émotion. Les premiers bus avec les prisonniers palestiniens sont arrivés il y a quelques minutes. Et au total, il y a environ 13 minibus, soit environ 300 personnes. À l'heure où je vous parle, le bus numéro 6 vient d'arriver. Les véhicules sont pris d'assaut, les familles se pressent contre les vitres pour voir leurs proches. Il y a des embrassades, il y a des larmes, les femmes jettent des bonbons et pleurent en l'air. Les prisonniers sont raccompagnés ensuite sous la grande tente, à l'abri du soleil, là où il y a des chaises. Et même les plus coriaces sont en larmes. Certains pères voient leurs fils pour la première fois en 20 ans. Certains prisonniers s'effondrent dans les bras de leurs enfants. C'est une seconde naissance, m'a dit un ex-prisonnier débarqué il y a environ maintenant 10 minutes. La plupart d'entre eux que j'ai vus ont l'air amoindris, épuisés, mais infiniment heureux d'être de nouveau sur le sol palestinien.
Moussine Enaimi en direct de Gaza, où sont entrés à l'instant les prisonniers palestiniens. On le disait, hein, Gilad Shalit est lui rentré en Israël. Vous venez, Serge Ronen, d'entendre la joie à Gaza. On vous retrouve, vous, en direct de Jérusalem.
En effet, Gilad Shalit est en Israël. Il a tout de suite été examiné par des médecins qui l'ont trouvé en bonne santé. Et puis, il a téléphoné à ses parents. Premier contact téléphonique avec Aviva et Noam Shalit, ses parents, depuis plus de 5 ans. Gilad Shalit est monté ensuite dans un hélicoptère qui a pris la direction d'une base aérienne du centre du pays où l'attend un comité d'accueil ayant à sa tête le Premier ministre Netanyahou. Parallèlement, les prisonniers palestiniens libérés arrivent à Gaza et à Ramallah en Cisjordanie. À Gaza, le Premier ministre du Hamas, Hamidé, attendait les prisonniers libérés ainsi qu'une foule immense en liesse. Le Hamas se targue d'avoir réussi là où l'autorité palestinienne a échoué, avoir fait libérer plus d'un millier de Palestiniens incarcérés dans les prisons israéliennes. Et dans les grandes villes israéliennes, un sentiment de satisfaction prend le pas sur toute autre réaction, le sentiment d'avoir tout fait pour le faire sortir de captivité. Avant de franchir la frontière, Gilad Shalit a été interviewé par la télévision égyptienne et il a déclaré d'une voix nouée par l'émotion « J'espère que cet échange de prisonniers va faire avancer la cause de la paix ».
À Jérusalem, en direct, Serge Ronon est précisant encore que certains des prisonniers palestiniens iront notamment en Turquie. Le ministère turc des Affaires étrangères a confirmé ce matin que son pays allait accueillir plusieurs prisonniers palestiniens libérés mais bannis à l'étranger après une demande émanant des responsables palestiniens. Nous reviendrons dans les prochaines éditions sur ces différentes libérations, notamment ce soir à 18h dans l'émission Forum. Malgré un taux au plancher d'1,20 franc pour 1 euro, le franc reste fortement surévalué et ses conséquences sur l'économie du pays ne cessent de s'aggraver. Ce diagnostic a été posé ce matin à Berne par l'Union syndicale suisse qui s'inquiète des répercussions négatives du Francfort sur l'emploi et sur les salaires. De quoi pousser l'USS à demander des mesures urgentes pour redresser le tir, Christian Favre.
Oui, redresser le tir, ou plutôt le cours du franc suisse par rapport à l'euro. L'USS appelle la Banque nationale à imposer un taux plancher d'1,40 franc. Les syndicats se disent convaincus que la BNS en a les moyens. Une intervention jugée urgente, car les conditions cadres pour l'économie ne cessent de s'aggraver. L'USS cite l'industrie d'exportation, bien sûr, la branche touristique qui doit se préparer à vivre un hiver très compliqué, et puis les caisses de pension. On évoque ici jusqu'à 30 milliards de pertes comptables. Un climat délétère qui se répercute directement sur l'emploi. Dans les régions frontalières, plusieurs entreprises ont déjà baissé les salaires, parfois même versés en euros. Et puis, nouveau cas de figure qui inquiète les syndicats, celui d'entreprises étrangères qui détachent de la main-d'œuvre en Suisse des menuisiers, des peintres, des maçons qui viennent avec leurs propres fournitures et qui, au final, proposent des prix nettement plus bas que ceux pratiqués en Suisse. Le problème, c'est que les amendes qui leur sont infligées pour dumping salarial restent le plus souvent inférieures aux profits réalisés sur les chantiers. Les syndicats attendent aujourd'hui une réaction politique urgente des services du ministre de l'économie, Johann Schneider-Hamann.
Bonjour Enzo Ambrosetti.
Bonjour.
Co-président du syndicat UNIA. Pour contrer les effets négatifs du franc fort sur l'emploi en particulier, vous demandez à la Banque nationale suisse d'agir, de pousser le taux plancher à 1,40 franc pour 1 euro. La BNS a augmenté ses réserves de devises et dans celle-ci, 7 milliards découlent de ces taux planchers. Alors, a-t-elle vraiment aujourd'hui les moyens d'une intervention comme vous le demandez?
Écoutez, nous estimons que la situation telle qu'on la vit réellement dans les entreprises et dans la branche est grave. Le franc 20, c'est un premier pas. On est de l'avis qu'il faut aller à l'avant. On sait qu'avec un franc 40, beaucoup de problèmes qui aujourd'hui sont à l'horizon vont se régler. Je suis sûr que si on ne fait pas ce pas-là, dans les prochains mois, on aura une augmentation du chômage, on aura dans les branches d'exportation des licenciements, et ça ne peut pas être notre futur.
Mais vous pensez que la BNS, 1,40 franc pour 1 euro, elle ne veut pas le faire, mais qu'elle a les moyens de le faire?
Nous, nos estimations, c'est que il y a les moyens de le faire, du profil technique, mais aussi du profil de la responsabilité vis-à-vis de l'économie réelle. Je répète, les places de travail dans l'industrie d'exportation, notamment dans les machines, ils sont en danger. Il faut agir. On ne peut pas imaginer qu'il y a une délocalisation. On ne peut pas imaginer que tout d'un coup, le taux de chômage augmente dans ce pays. On a des places de travail qui sont détruites. Ce serait dramatique.
Renzo Ambrosetti, vous parlez de la casse des salaires dans les entreprises. Vous l'avez évoqué ce matin. Vous évoquez notamment des cas de dumping salarial, des salaires de 3 à 4 francs de l'heure qui sont payés à certaines personnes. Comment expliquer qu'on arrive à de tels extrêmes aujourd'hui? On n'a pas assez de sanctions?
Écoutez, les mesures d'accompagnement ont des lacunes. Il faut absolument que le nombre de contrôles vont augmenter. La possibilité de sanctionner doit être encore améliorée. Et ce qui est absolument nécessaire, c'est qu'on prévoit dans la loi une garantie solidaire de l'entrepreneur principal vis-à-vis des sous-traitants. Ces entreprises qui payent 3 euros, ils sont des entreprises de sous-traitance, ils sont à la quatrième ou à la cinquième position de la chaîne, incontrôlable, qui vient de n'importe où. On ne peut pas aller dans cette direction, car autrement on risque de créer une situation de déstabilisation totale dans le cadre du marché du travail.
Renzo Ambrosetti, pour conclure, vous attendez quoi du ministre Johann Schneider-Hamann aujourd'hui?
On attend qu'il prenne des positions claires. Pour ce qui est de la Banque nationale, c'est l'affaire de la Banque nationale. Pour ce qui est le ministre, il a des possibilités d'intervenir dans l'application des mesures d'accompagnement. On a aussi proposé pour l'industrie d'exportation qu'il y a une modification de l'assurance sur les risques à l'exportation en couvrant aussi le risque du change.
Je vous remercie Renzo Ambrosetti, co-président du syndicat UNIA, d'avoir accepté l'invitation de Christian Favre, et on s'excuse d'ores et déjà pour la qualité de la ligne. Ajoutons que le paquet de mesures adoptées par le Parlement pour lutter contre le franc fort ne peut pas être attaqué par référendum. La chancellerie fédérale a précisé ce matin que les lois dites urgentes peuvent en principe être combattues par ce biais si leur validité dépasse 12 mois. La Suisse fera tout pour restituer les fonds déposés en Suisse par les dirigeants déchus du monde arabe. Micheline Calmiret l'a dit à l'occasion d'une conférence organisée par le département fédéral des affaires étrangères. Des experts, mais également des jeunes acteurs des révolutions arabes, sont invités pour évoquer l'avenir de la région. Romain Clivat.
Soulèvement dans le monde arabe entre espoir et inquiétude. C'est le titre d'une conférence organisée aujourd'hui par le département fédéral des affaires étrangères. Une fois de plus, c'est la question de la restitution de l'argent des potentats qui était au centre de l'attention. Lors de sa visite à Tunis en mai dernier, Micheline Calmiret avait pu mesurer l'attente des gens sur le terrain. Dans son discours, la ministre des Affaires étrangères a repoussé le reproche de passivité fait à la Suisse, tout en soulignant la complexité de l'exercice.
On a toujours eu la volonté de restituer les fonds. La Suisse a joué un rôle de pionnier, joue toujours un rôle de pionnier dans la restitution des fonds au niveau global. Nous avons, sur les 5 milliards de fonds qui ont été restitués aux pays d'origine, la Suisse en a restitué 1 milliard 700 millions. Donc on joue un rôle de pionnier en la matière. Ce qui se passe, c'est que nous avons bloqué l'argent et puis maintenant il faut le confisquer et le restituer. Et la confiscation et la restitution ne peuvent se faire qu'au travers de procédures d'état de droit et des procédures d'entraide judiciaire. Et ça prend du temps, malheureusement. C'est difficile à comprendre, mais ça prend du temps.
Mais un activiste tunisien a osé la question qui fâche. Ne serait-il pas plus simple de s'épargner l'exercice de la restitution en n'acceptant pas de tels fonds? Micheline Calmiret a défendu la pratique de la Suisse en la matière.
On a un système à un double pilier, un système de prévention. Ça veut dire que cet argent des potentats, s'il y a des doutes ou des certitudes sur les bénéficiaires économiques des comptes, normalement, ça devrait être annoncé. Reste que c'est souvent très très difficile de savoir qui est derrière un nom, qui est détenteur d'un compte, et que souvent ça demande des études un peu plus poussées. Et c'est la raison pour laquelle il y a, pour la Tunisie, il y a très peu d'argent finalement, parce que nous avions très mauvaise relation avec la Tunisie.
Dans la suite de son discours, Micheline Calmiret a remercié les jeunes activistes arabes qui incarnent l'espoir pour le changement.
À Berne, les précisions de Romain Clivat. Et puisqu'on parlait des pays arabes, d'intenses bombardements et de violents combats de rue avaient lieu ce matin dans deux quartiers de Sirte où se sont repliés les derniers fidèles de Muammar Kadhafi au lendemain de la chute de Bani Walid, autre bastion pro-Kadhafi. C'est ce qu'a constaté un journaliste sur place. Les forces du Conseil national de transition ont déploré au moins 23 blessés dans leur rang ce matin. Swiss Life veut protéger l'identité virtuelle de ses clients. La filiale française de l'assureur lance un nouveau produit destiné à combattre la propagation de données litigieuses sur des individus, que cela soit sur les réseaux sociaux ou d'autres sites internet. En Suisse, et c'est une information RSR, l'avocat valaisan Sébastien Fanti planche en ce moment même sur la mise en place d'une telle assurance. Pierre Crevoisier.
La tendance existe et elle va se renforcer. La publication sauvage de contenu préjudiciable à la réputation d'une personne sur internet. Mais comment faire et à qui s'adresser pour tenter de supprimer l'information? Les réponses à cette question sont multiples, complexes, réponses techniques, actions juridiques, des démarches qui ne sont pas nécessairement à la portée de n'importe qui. D'où l'idée d'une couverture de e-réputation, c'est le type d'assurance que propose précisément Swiss Life France. Pour l'instant, une telle prestation n'existe pas en Suisse, mais c'est pour bientôt. L'avocat Sébastien Fanti vient de nous le révéler.
Oui, c'est incessant. En fait, ces problématiques liées à Internet, et donc les assureurs sont en train de s'intéresser à la constitution de tels produits qui seraient spécifiques à l'e-réputation notamment, et donc à la défense de leurs droits d'assurés d'internautes. Et je pense que d'ici le premier trimestre de 2012, nous aurons les premiers produits qui seront commercialisés.
Quelles seront donc les conditions de cette forme de protection juridique? À quel prix? La compagnie française propose par exemple un contrat individuel de moins de 10 euros par mois. Pour Sébastien Fanti, c'est peu, trop peu. Il a déjà réfléchi à la question pour son prochain équivalent suisse.
Pour moi, le produit n'est pas bon. C'est clairement un produit qui exclut des hypothèses qui sont les hypothèses principales dans lesquelles ces cas se produisent. Mais je pense que pour une somme de l'ordre de 20 francs par mois, on pourrait avoir déjà un catalogue de prestations beaucoup plus étendu et des droits à une défense beaucoup plus efficace.
On ne saura pas pour l'heure à quelle grande compagnie suisse va sortir l'assistance e-réputation. Ce ne sera pas Swiss Life, la maison mère à Zurich nous l'a confirmé.
Pierre Crevoisier de la rubrique multimédia de la radio suisse romande. Les FMB qui exploitent la centrale nucléaire de Mühleberg refusent d'intégrer des Verts dans leur conseil d'administration après la catastrophe de Fukushima. Les Verts bernois avaient proposé 3 candidats, estimant que des experts en énergie renouvelable devaient entrer au conseil d'administration des forces motrices bernoises. Dans une lettre que publie la presse bernoise, les FMB rejettent ces candidatures. Précision Alexandre Richard.
Faire élire des personnalités plus critiques envers le nucléaire, c'était l'objectif des Verts bernois qui avaient proposé 3 candidats en août. Le conseiller aux États genevois Robert Kramer, la conseillère nationale bernoise Franziska Teuscher et Urs Mundwiller, professeur en photovoltaïque. Pour les Verts, c'est important dans le contexte d'une sortie du nucléaire que des spécialistes en énergie renouvelable soient représentés à la tête de l'entreprise. Pas nécessaire, répondent les FMB dans une lettre que publient le Bund et la Berner Zeitung. Le conseil d'administration doit être composé de généralistes. Il n'y a d'ailleurs pas non plus d'experts en nucléaire, argumentent les FMB. Les Verts ont pris acte, mais pour eux, c'est très clair. Si ce ne sont pas ces candidats-là, les FMB devront très vite engager des personnalités crédibles pour mettre en œuvre la nouvelle orientation voulue par le gouvernement bernois et développer les énergies renouvelables.
À Londres, il est possible de suivre les traces des SDF lors de visites guidées qu'ils animent eux-mêmes. Ces circuits inhabituels appelés Usain Tours ont été mis sur pied il y a un peu plus d'un an par un petit groupe de bénévoles qui tentent de redonner confiance aux personnes sans logement et combattre également les préjugés. À Londres, voici le reportage de Catherine Litch.
Un grand corps frêle, un visage marqué par des années de galère, mais une voix suffisamment puissante pour se faire entendre parmi le vacarme londonien. Vive démarre sa visite dans un petit parc tout près de la Tamise, là où elle est venue parfois dormir.
Nous avons conçu la visite en fonction des endroits où j'ai dormi. J'ai dormi ici dans ce parc, j'ai dormi sous le pont de Waterloo, j'ai aussi dormi près du musée des transports à Covent Garden. Je suis sans logement depuis 10 ans environ.
Vive dort désormais chez un ami dans un endroit plus confortable et a surtout trouvé un nouveau sens à sa vie en animant chaque semaine des visites guidées à Covent Garden.
J'ai enfin quelque chose à faire, c'est super, ça m'occupe et je peux parler à plus de gens.
Depuis le lancement du projet, 5 différents tours ont été créés et une dizaine de guides formés. Lydia, l'une des initiatrices du projet, explique quelle est la spécificité de ces balades.
La particularité du tour, c'est que vous apprendrez des choses que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Vous avez la partie historique, l'histoire du quartier, ses repères, ses édifices, comme dans tous les tours habituels, mais ce n'est que 50% de la visite. Le reste du tour est un regard sur la ville du point de vue des sans-abri, ce que la ville signifie pour eux.
La quasi-totalité du prix du billet, soit 11 francs, est reversée aux guides, ce qui leur garantit un petit revenu. Mais c'est surtout la possibilité de recréer un lien social qui est primordial, remarque Lise, une autre guide formée par l'association.
Ça permet de sortir de son environnement habituel, de rencontrer des gens qui ont des vies plutôt agréables, avoir une chouette discussion avec quelqu'un, un café, une conversation. Ce n'est pas que l'argent qui compte.
Pour les participants, l'expérience du tour est aussi bénéfique. Ils sont confrontés à une réalité qu'ils ignorent très souvent. Parfois, les échanges se prolongent au terme de la balade, le signe que la visite n'a pas laissé indifférent. Catherine Illich, Radio Suisse Romande, Londres.
Et plus d'informations sur rsrinfo.ch. L'armée thaïlandaise doit installer aujourd'hui 1 million de sacs de sable supplémentaires pour protéger Bangkok des inondations. Les autorités craignent en effet que les digues ne cèdent face à la puissance des eaux. La Thaïlande connaît actuellement les pires inondations depuis des décennies. Et les opérations de récupération du pétrole, des cuves, du cargo échouées au large de la Nouvelle-Zélande ont été suspendues en raison du mauvais temps. Le vent qui souffle à 65 km/h met également en danger les équipes de secours. Depuis le début des opérations de pompage hier, 90 tonnes de carburant sur un total de 1300 ont été transférées à bord d'un autre navire.
Le 12-30, Natacha Van Kutsem.
La commission de la culture de la ville de Genève a refusé la semaine dernière toutes les demandes d'augmentation des subventions. Nous vous en parlions. Tous les milieux culturels sont concernés, comme le théâtre du Galpon qui verrait sa subvention stagner à 140 000 francs au lieu des 200 000 francs promis par la ville. La co-directrice Nathalie Takela explique les conséquences d'une telle mesure.
C'est un ensemble de coupes assez insidieuses qu'on va devoir faire et qui vont toucher à la fois les compagnies accueillies, à la fois les permanents du Galpon et bien sûr le public et la population concernée par notre travail.
Des postes seraient supprimés en cas de non-augmentation de la subvention ?
Oui, les postes d'administration ne pourront pas être créés comme nous le souhaitons. Actuellement, on est dans cette situation assez paradoxale qu'on a construit un théâtre en une année avec un budget très peu élevé, construction qui a été très largement soutenue administrativement et financièrement par la ville et par l'État. Et puis aujourd'hui que le théâtre est pratiquement fini, enfin qu'il est déjà opérationnel, on est dans ce paradoxe d'avoir construit un outil et de ne pas lui donner les moyens qui pourtant ne sont pas exorbitants. De réaliser ce pourquoi le lieu a été construit.
Des propos recueillis par Sarah Pernet. En cyclisme, les détails du parcours du Tour de France 2012 ont été dévoilés il y a quelques minutes au Palais des Congrès à Paris. La grande boucle qui fera halte à Porrentruy le dimanche 8 juillet s'élancera le 30 juin de Liège en Belgique pour arriver le 22 juillet sur les Champs-Élysées. Romain Rosanc, vous avez assisté à cette présentation et cette 99e édition est placée sous le signe de la nouveauté.
Oui, c'est l'adjectif employé ce matin par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, pour qualifier cette 99e édition. Une grande boucle qui visera d'abord les Alpes, puis les Pyrénées, avec seulement 3 arrivées en altitude, sans Mont Ventoux, Alpes d'Huez et Galibier, mais avec 25 ascensions de deuxième, première et hors catégorie, dont une demi-douzaine d'inédites. À commencer par la 8e étape, qui reliera donc Belfort à Porrentruy, une première pour le canton du Jura. Une étape courte, 154 km, mais sans doute très nerveuse, avec pas moins de 4 difficultés sur sol jurassien, les côtes de Seigne-Légier, de Saucy et de la Cacrelle, et surtout le difficile col de la Croix situé à 17 km de l'arrivée. Une chose est sûre, ce n'est pas un sprinter qui s'imposera ce jour-là. Le Tour de France ne restera pas longtemps sur sol jurassien puisque le lendemain, les coureurs n'observeront pas un jour de repos mais disputeront un contre-la-montre individuel près de Besançon. Et c'est peut-être dans cet exercice que pourrait se jouer l'édition 2012 car avec le prologue à Liège et encore un chrono individuel la veille de l'arrivée à Paris, il y aura près de 100 km d'effort solitaire. Une excellente nouvelle pour Gad Evans, le vainqueur sortant. D'ailleurs tout sourire il y a quelques minutes lors de la présentation. Un peu moins bonne pour les frères Schleck, pas vraiment à l'aise dans ce type d'exercice. On l'a encore vu lors du dernier Tour de France. Gad Evans a donc une belle opportunité de réaliser le doublé, à moins qu'Alberto Contador, 13 ans ce matin et qui a déclaré tout miser sur la grande boucle l'an prochain, n'en décide autrement.
Romain Rosanc de la rubrique sportive de la RSR en direct de la conférence de presse du Tour de France 2012 à Paris. La conférence, cette fois des Nations Unies sur le développement durable, aura lieu en juin 2012 à Rio, 20 ans après le premier événement du genre. Le programme des Nations Unies pour l'environnement organise avec la ville et le canton de Genève une réflexion en amont sur ce Rio+20. Cet événement de sensibilisation est intitulé « Action locale pour un impact global, gouvernance locale et régionale pour une transition vers une économie verte », tout un programme. Donc on va en parler avec vous, Sylvie Meutard, bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct de Genève. Vous avez quitté cette réunion, cette journée de réflexion pour nous rejoindre. Vous avez travaillé notamment, vous êtes l'ancienne chef du bureau pour l'environnement des programmes des Nations Unies à Bruxelles et vous travaillez en ce moment au bureau régional pour l'Europe au sein des programmes des Nations Unies. Votre carrière, hein, elle a commencé dans le secteur de l'environnement, précisément il y a 20 ans quand il y avait cette conférence de Rio. 20e anniversaire donc de ce sommet de la Terre. Il y a 20 ans, les États s'engageaient dans une politique de développement durable. Aujourd'hui, les engagements sont-ils respectés, du moins en partie ?
20 ans ont vu beaucoup de changements. Les engagements ont été partiellement respectés, effectivement, avec un impact très diversifié. Ces dernières 20 années ont vu un contexte politique et économique particulièrement mouvant et changeant. Et si je peux me rappeler, en 1992, l'enthousiasme de la société civile pour la préparation de cette conférence sur le développement durable, nous ne constatons plus le même enthousiasme dont nous avons pourtant bien besoin à 7 mois de la prochaine conférence à Rio en juin 2012.
Donc l'enthousiasme civil, vous voulez dire la population générale, a peut-être été au début très enthousiaste effectivement au projet, aux actions, mais maintenant elle se repose sur ses lauriers ?
Non, elle ne se repose pas sur ses lauriers. Je crois que la société civile est déçue du manque de résultats qui a été atteint dans les 20 dernières années. Je crois qu'il y a une certaine fatigue sur des sujets tels que l'environnement, malheureusement, quand bien même votre émission, par exemple, a nommé au moins trois problèmes environnementaux dans la dernière demi-heure. Mm-hmm. Je pense que la fatigue s'installe chez le citoyen, tout simplement parce qu'il y a d'autres préoccupations, telles qu'économiques ou financières, qui sont pourtant intrinsèquement liées à la notion de développement durable, mais le lien n'a pas été établi. Et je pense que c'est ce maillon manquant dont nous devons faire état maintenant, 20 ans après Rio.
Effectivement, vous en parlez justement du contexte économique. Avant Rio, il y aura aussi Durban, hein, en fin d'année, en décembre. Là, on va devoir délier les cordons de la bourse, notamment pour les pays les plus pauvres, hein, pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique. Mais il y a beaucoup de pays européens, comme vous venez de le dire, qui sont en ce moment embourbés dans la crise. Alors effectivement, c'est plutôt ça qui les concerne et qui les intéresse. Le climat, l'environnement, à cause justement de cette crise économique, passe au second plan chez beaucoup de gens.
Oui, j'en ai bien peur, effectivement, parce que ce qu'il nous manque maintenant, et c'est ce que nous essayons de prêcher, c'est qu'une transition vers une économie verte permettrait, sur le long terme, d'éviter des chocs économiques et financiers aussi graves que ceux que nous connaissons. Malheureusement, la priorité est au court terme, et il va falloir qu'à Durban, les États prennent leurs responsabilités auxquelles ils se sont engagés à Cancun. Ils se sont engagés dans un premier geste à 30 milliards de dollars avant 2012 pour aider les pays en voie de développement à effectivement pouvoir mettre en œuvre les objectifs de la Convention. Ils se sont engagés à essayer de trouver 100 milliards par an jusqu'à l'année 2020 pour justement supporter les efforts en matière de lutte contre le changement climatique, mais le cash manque à mon avis.
Voilà, c'est ça, ils s'engagent. Échec à Copenhague en 2009, Durban en fin d'année, Rio l'année prochaine. On s'engage, on dit des choses. Est-ce qu'on ne doit pas finalement repenser, puisque au bout d'un moment, l'argent n'arrive pas, en tout cas les engagements vraiment tenus lors de ces sommets n'arrivent pas. Comment est-ce qu'on doit repenser ces sommets aujourd'hui ?
Je pense que ce sommet, si on parle en termes de calendrier, ce qu'il faut absolument éviter à Durban, c'est de diluer le message de Durban parce qu'on se prépare pour Rio, avec le risque qu'à Rio, on dilue encore une fois le message, avec 4 jours de conférence, plus de 180 pays représentés, donc de grosses difficultés à atteindre, disons, des décisions. Il faut que, je crois, réveiller encore une fois, la société civile. Il faut aussi faire appel à d'autres niveaux de gouvernance, d'où cette conférence aujourd'hui à Genève. Je pense que la transition vers l'économie verte est largement faite à des niveaux de gouvernance qui ne sont pas du niveau national. Donc ce sont les villes, ce sont les communes, ce sont d'autres niveaux de gouvernance qui assurent effectivement la transition vers l'économie verte avec le soutien des populations. Donc ce n'est pas seulement un message, disons, du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut. Et c'est ça que nous attendons.
C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Action locale pour un impact global, le colloque du jour, hein.
Oui, tout à fait.
Je vous remercie, Sylvie Motard. Je rappelle que vous travaillez au Bureau régional pour l'Europe du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Colloque donc aujourd'hui qui se déroule au Centre international de conférences de Genève. Sylvie Motard, je vous souhaite une excellente journée à vous. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et on va encore prendre des nouvelles de la bourse. À la mi-journée, à la bourse suisse, l'indice SMI aujourd'hui, il est en baisse 0,75%. Il se situe à 5680 points pour ce mardi. Les prévisions météo de ce mardi également, Sébastien Dupéret aujourd'hui.
Il y a encore quelques bancs de brouillard qui naviguent en ce moment, notamment dans la région de Delémont et celle de Bienne. Ils se dissiperont rapidement en ce début d'après-midi. Sinon, le temps s'annonce radieux. Les températures actuelles, 11 à Échallens, 13 à Moudon, 14 à Moutier et 15 à Saint-Maurice. Cet après-midi, on atteindra 17 degrés en Valais, 19 sur le plateau et même 20 à Genève et en Ajoie. Demain, les conditions s'annoncent nettement plus maussades. Les précipitations arriveront rapidement par l'ouest. La limite de la neige descendra à 1000 mètres dans le courant de la matinée sur le Jura, un peu plus tardivement dans les Alpes. En Valais, précipitations vers la mi-journée seulement. Les températures atteindront 12 degrés en matinée, puis elles passeront sous les 10 l'après-midi. Jeudi, début d'amélioration avec quelques éclaircies en pleine et un temps encore nuageux et humide dans les Préalpes. La fraîcheur se maintiendra avec 8 degrés seulement et une bise sensible sur le plateau. Dès vendredi, retour d'un temps plus stable, mais toujours frais.
La météo, offerte par Crémo et son fromage à raclette Mazou.
Et c'est la fin de ce journal de 12h30 sur la première. Merci de votre fidélité à l'ensemble de la rédaction et à l'assistance technique. Demain, dans ce même journal de midi et demi, le photographe Marco Paoluzzo sera notre invité. Il vient de publier China Memories aux éditions Favre. Pour des motifs politiques, il ne s'est pas rendu en Chine avant 1998. Aujourd'hui, il est marié à une Chinoise et il a mis dans ce livre toutes les photos qu'il a pu faire depuis 1998. Et c'est notamment grâce à sa femme que ce livre a pu voir le jour. Marco Paoluzzo viendra nous parler de son livre, de ses photos, de son expérience en Chine, demain en direct. Excellent après-midi sur la première, précisément 13h.